Est-ce qu'il y a des questions?
Je me demande si on suit les principes du copyleft, comment est-ce que les artistes vont être payés alors pour leur travail? Est-ce qu'on doit penser à des principes un peu plus communistes ou, enfin, c'est une chose que je ne vois pas très bien comment ça va se passer.
C'est-à-dire que c'est une confusion qui est un peu récurrente depuis hier. On pense qu'à partir du moment où l'artiste met une œuvre sous une licence art libre ou équivalent, il ne gagne pas d'argent. Mais ce n'est pas vrai du tout. Par exemple, je ne sais pas, vous faites une œuvre vidéo, vous la vendez à un musée, ou vous la vendez à un collectionneur, tout simplement. Le collectionneur, il est évidemment au courant que cette œuvre est sous licence art libre. Et la licence art libre, enfin, je ne crois pas que je me trompe, Antoine, permet simplement à tous les contributeurs potentiels de se réapproprier cette œuvre. Mais ça n'empêche aucunement l'artiste de vendre son œuvre. À aucun moment, en fait. Il y a une petite confusion récurrente un peu hier par rapport à ça. Et je trouve que c'est pour ça que le copyleft, la licence art libre sont intéressants, c'est qu'à aucun moment il est question que l'artiste ne gagne pas sa vie. L'artiste doit gagner sa vie. Comme je disais hier, je veux dire, c'est une préoccupation à plein temps et on ne vit pas de l'air du temps. Et c'est vrai que les préoccupations romantiques du 19e de l'artiste qui vit d'amour et d'eau claire sont un peu dépassées. Et je crois qu'on peut gagner de l'argent avec une œuvre. En tout cas, moi, en tant qu'artiste, je mets tout mon travail sous la licence art libre. Ça ne m'empêche pas de vendre mes œuvres. C'est pas incompatible et c'est pas contradictoire du tout. C'est simplement que vous proposez à d'autres artistes de vous déplumer. Voilà.
Oui, mais si on voit tous les musiciens qui mettent
alors là,
leur
c'est
CD
drôlement plus compliqué
sur l'internet.
Les deux musiciens hier, vous parlez.
Enfin,
c'est drôlement plus compliqué.
Là, il y a moins de CD qui sont vendus, c'est clair.
Ouais.
Donc
ouais.
Eux, ils gagnent moins.
Ouais. Ouais. Ben là, c'est très très particulier parce que d'après ce qu'on a compris, donc en Belgique, par exemple en France, un jeune musicien peut très bien composer sa musique. Enfin, à l'école où je travaille, il y a beaucoup de jeunes gens des Beaux-Arts donc qui font leur propre musique et qui la vendent sans problème aucun d'ailleurs. On peut très bien faire son propre CD puis effectivement après on se débrouille. Mais effectivement, en Belgique, c'est très différent. Apparemment, on n'a pas même le droit de presser un CD sans avoir l'aval de la SABAM. Et alors là, par contre, j'ai bien malheureusement pas de réponse du tout. À part que, enfin, je sais pas, en discutant un peu entre nous, je pense que dans ce cadre-là, il est urgent, plus qu'urgent, de vous constituer en collectif et de faire appel effectivement au fameux ministre, je sais pas quoi, qui pourra peut-être effectivement considérer au moins le problème. Parce que si le problème n'est pas même considéré d'un point de vue, du point de vue du gouvernement, du point de vue du pouvoir lui-même, je veux dire, il n'est pas question que la SABAM aille dans votre sens, évidemment. Alors après, si j'ai bien compris, la SABAM, c'est une société privée, non?
Oui, non.
Oui. Et puis, par contre, le gouvernement que vous avez n'est pas, lui, une société privée. Il est censé gérer l'intérêt de tous. Alors c'est peut-être lui qui est, à mon avis, le garant, enfin qui devrait en tout cas être le garant de l'intégrité. Donc la SABAM, effectivement, elle a un monopole absolument fou. Enfin, je sais pas, j'ai jamais entendu un aussi gros monopole dans un pays, et donc qui interdit carrément aux gens de produire des choses. On peut effectivement, en France, on a la SACEM et on peut interdire à des gens de diffuser des choses, mais pas de les produire. Et moi, je crois qu'il faut vraiment vous constituer urgemment en collectif. C'est vraiment indispensable.
Oui, je voudrais poser une question, peut-être que c'est moi qui ai mal compris, mais bon, parce que là on aborde la thématique de la rémunération de l'auteur, qui est une thématique qui, à mon avis, il faut aborder aussi. Et donc, je voudrais prendre un cas et vous poser la question à tous les deux, peut-être que vous pourrez me répondre. Donc tu disais que la rémunération de l'auteur, ça se fait par la vente. Par exemple, un vidéaste va vendre sa bande ou un peintre va vendre... Tu entends? Tu n'entends pas?
Extrêmement mal, mais peut-être je vais... Ben oui, comment je peux faire pour l'entendre mieux? Parce qu'en plus je suis un peu sourde, tu vois, ça arrange rien. Oui, de ça, de celui-là. D'accord. Ben, je vais me mettre là.
Oui. Le principe de la licence art libre, si j'ai bien compris, mais arrêtez-moi, c'est qu'on ne peut pas tirer un profit pécuniaire de l'œuvre une fois qu'elle est sous licence art libre.
C'est pas ça. Enfin, moi, je ne crois pas que c'est ça, Antoine. C'est pas ça.
c'est pas le but visé. Mais disons qu'imaginons un vidéaste qui fait une œuvre vidéo. Vous imaginez comme seul système.
Exemple qui est celui de Bill Viola, un monsieur que j'admire beaucoup d'ailleurs pour ça, c'est que Bill Viola, comme tout le monde le sait, est un artiste extrêmement connu qui gagne beaucoup d'argent et qui vend ses bandes au musée extrêmement cher. Mm-hmm. Et là où il habite, donc sur la côte ouest, il a décidé de mettre en vente ses bandes à 100 francs, même pas 100 francs, 50 francs la copie. Alors un collectionneur qui veut acheter une œuvre, il a le choix effectivement entre acheter la bande dans un supermarché, mais il ne peut pas estimer, d'abord il ne peut pas la montrer cette œuvre. Il va acheter effectivement l'œuvre au prix du collectionneur, au prix. On acquiert une œuvre d'art, elle a un certain prix. Après, on est dans le cadre d'une diffusion, d'une diffusion privée. C'est la même chose pour un musée.
Mais quel intérêt il aura à acheter 300 000 francs, quelque chose qu'il peut acheter 100 francs?
Il ne peut pas, il peut l'acheter 100 francs, effectivement, mais il ne peut pas estimer avoir la propriété de l'œuvre elle-même. C'est une copie, c'est pas une œuvre.
De toute façon, il l'a jamais. Il peut avoir au mieux la propriété d'un support matériel qui va être, dans le cas de la peinture, une toile, une sculpture, Mais
écoute,
n'importe quel acheteur...
Moi, ce que je peux te dire, je ne suis pas juriste, ce que je peux te dire en tout cas, c'est que Bill Viola est acheté par de nombreux musées, par de nombreux collectionneurs à un prix totalement prohibitif, et qu'en tout cas, sur la côte ouest, on peut acheter ses bandes à 50 francs, et que ça n'empêche pas les collectionneurs, quand ils achètent un Bill Viola, d'acheter l'œuvre au prix de l'œuvre. C'est-à-dire, une œuvre, ça suppose un travail, etc. Après, on est dans un cadre totalement différent. Et ça n'interfère pas, du tout.
Là, ça part d'une démarche militante de ces quelques collectionneurs qui peuvent se permettre d'aller acheter une...
Mais c'est quand même,
à mon avis, très marginal. Comme...
Absolument pas. Absolument pas. Il serait un travail intéressant à faire, par exemple, que de répertorier tous les musées, tous les collectionneurs qui ont acheté... Je ne sais pas, depuis que Bill Viola fait ça, des œuvres de lui, à des prix, comme je te disais, prohibitifs, et de constater qu'effectivement, il y en a énormément, tout simplement. Tu vois, enfin, je veux dire, ça n'interfère pas. Ce n'est pas la même chose.
Est-ce que ça n'est pas possible dans ce cas-là, du fait qu'il y a encore un original qui est une installation vidéo avec un meuble, des miroirs qui tournent éventuellement, etc. Et alors uniquement l'enregistrement qui est duplicable à merci, auquel cas il y a encore une distinction entre original qui vaut plus que la copie qui vaut ce qu'elle vaut. C'est un cas tout à fait particulier. Est-ce qu'il n'y a pas une confusion entre la commande d'une œuvre pour avoir le premier exemplaire, la première divulgation de cette œuvre pour soi, et les copies successives? Est-ce que ça n'est pas vraiment la licence art libre n'est pas applicable uniquement dans ce domaine tout à fait spécifique? Je ne vois vraiment pas comment vous pouvez l'appliquer à des œuvres musicales qui sont numérisées, à toute œuvre audiovisuelle qui est numérisée, qui peut être copiée à un nombre infini d'exemplaires, qui peut être diffusée sur la planète du jour au lendemain comme ça, parce que ce sont des œuvres qui nécessitent quand même des investissements qui portent sur des dizaines de millions. Et une fois qu'elles sont diffusées, elles ne valent plus rien. Si un enregistrement musical se retrouve sur le net au début de son exploitation, cet enregistrement n'aura plus aucune vie commerciale, ne pourra plus rien rapporter à la compagnie de disques qui l'a produit. Donc comment est-ce que vous envisagez la vie en circulation de ces produits-là aussi? Là, je ne comprends pas du tout.
Moi, je voulais préciser quelque chose par rapport à Bill Viola, c'est qu'il y a deux types d'œuvres. Il y a les œuvres multiples, les cassettes vidéo, qui existent en un nombre illimité d'exemplaires. Peut-être que Bill Viola connaît le nombre, mais nous, on ne le connaît pas. Quand on achète un exemplaire, on achète un exemplaire parmi X exemplaires. Donc, on achète une copie, Bill Viola garde toujours l'original. Je voudrais quand même rectifier l'histoire des prix, parce que les cassettes VHS que Bill Viola et d'autres artistes vendent maintenant ne peuvent être utilisées que pour des besoins privés. impossible de les diffuser dans le public. Et le prix est fonction de la durée de vie de la cassette. Une cassette VHS ne dure pas très longtemps. Donc si 100 francs, 200 francs, c'est le prix de la cassette, en fait. Les œuvres que nous achetons, les multiples de Bilvila que nous achetons pour le musée, nous les achetons encore pour des prix très raisonnables. Et je ne voudrais pas que des bruits courent sur le prix des Bilvila qui seraient des faux bruits. Bon, je ne donne pas des prix ici en public, mais enfin, c'est moins de 10 000 francs. C'est moins de 10 000 francs. Moins de 10 000 francs. Voilà. Moins de 10 000 francs. Par ailleurs, les installations sont un autre cas de figure. Les installations fonctionnent sur un modèle, le modèle de la sculpture, de l'installation, donc de manière. Fonctionnent sur ce modèle plus moderne, en fait, plus moderniste, je pourrais dire. Donc elles existent en un, deux ou trois exemplaires, très limités par des contrats, qui décrivent précisément l'endroit où se trouve l'original, le nombre de copies, et si on peut, même les propriétaires des copies précédentes. Donc on essaye tant bien que mal de contrôler ces copies-là. Voilà, donc ces deux cas de figure très très différents.
As an historian, let me intervene here. Oftentimes these debates concerning copyright are framed in terms of economics, but there was a missing element to the analysis that was presented here, which was indeed the history of philosophy. Well, you have to understand that the web of confusions and angers in which we find ourselves now starts really when aesthetics is developed as a philosophical subject for modern debate in the 1740s in Germany, and then extended from Germany to France, England, and the United States. What aesthetics did as a philosophical subject was separate the actor from the act, from the object, so that the work of art was now separated from the work of being an artist, and that was separated from the individual as a human being. In the process of separating those three out, we have now these kinds of confusions still with us. So in order to deal with the problems that confront us in copyright, we cannot simply do an analysis of the economic systems under which we operate. We must go back and reconsider the whole notion of aesthetics in which the notion of being an artist was first defined.
Je vais vous répondre en français. La communication que j'ai faite ici est la définition d'un projet. Hein, ça doit être très clair. C'est-à-dire que le projet tel qu'il existe à l'heure actuelle est précisément ce que vous venez de dire. C'est-à-dire que moi, j'envisage de travailler dans ce projet à des définitions, comment dire, au rapport, à établir les rapports qui existent entre les pratiques artistiques, le juridique, l'économique, le philosophique, etc., pour définir un certain nombre de termes, d'accord. Or, ce qui m'intéresse, moi, de voir, c'est précisément ce que vous venez de décrire. C'est pas tout à fait précisément ce que vous venez de décrire, mais ce qui m'intéresse de voir, c'est comment les cadres juridiques ont influencé les définitions de l'auteur, de l'œuvre, la critique de la notion d'originalité, par exemple, la critique de la notion d'intérêt public. Et ça, c'est un projet pour le moment. Ça n'a pas été fait tout à fait encore. Je veux dire, j'ai besoin de travailler avec des gens avant. Mais ce qui me paraît important, et moi, mon postulat de base, est de dire que les cadres juridiques poussés. C'est marrant parce que vous faites le même geste que moi en même temps, j'ai l'impression d'être dans un miroir. C'est très rigolo. Ce qui m'intéresse, moi, de voir, c'est comment les cadres juridiques poussés par les marchés internationaux ont influencé les définitions esthétiques de l'auteur et de l'œuvre et ont bien évidemment influencé les activités artistiques elles-mêmes. Donc ça, c'est un travail à faire. Hein, il faut être d'accord avec
ça. I understand that half of the project, and what I'm encouraging you to do is to look at that side which may have not yet come into focus either nationally or for your own project, which has to do with this philosophical movement that began in the 1650s and moved on to the 1740s, not only in terms of aesthetics, but in terms of the very notion of defining a right, which did not come out of the legal system itself, but came out of politics and philosophy. And so that now when we are talking about copyright and then about copyleft, we are still using the same language that was developed in the late 17th and early 18th century to talk about something which may no longer be applicable in those terms.
Je veux juste répondre à cette objection qui est évidente. Pourquoi, en effet, payer une cassette vidéo 400 francs et une autre 10 000 francs? Enfin, qu'est-ce qui ferait qu'on aurait cette possibilité? Enfin, ça paraît invraisemblable, évidemment. Ce qui me semble... la cassette, enfin, les deux cassettes ont un prix différent. Il s'agit aussi d'actes d'achat différents. L'acheteur acquiert un statut avec le prix qu'il met à acquérir cette œuvre. Non seulement le prix qu'il met, mais la façon dont il se l'approprie. Dire télécharger un logiciel libre et l'acheter dans un magasin, ça n'est pas le même statut d'acheteur. Donc ça ne participe pas du même réseau. Et ça, c'est fondamental dans la notion même de l'objet, dans la relation qu'il a avec celui qui va l'utiliser. C'est ça qui fait que c'est possible, finalement, qu'on peut acquérir une chose gratuitement et en même temps qu'on peut l'acheter beaucoup plus cher. Ça ne correspond pas au même acte d'achat et donc au même statut.
Ça n'est pas le même public. Il y a un public...
Il y a des publics différents, bien sûr.
Qui auront la primeur, la primauté, qui seront avertis de l'existence de cette œuvre avant, qui paieront plus cher. Et puis alors, il y a le public secondaire.
Non, pas du tout. Non.
Donc c'est une question de médias par lequel l'œuvre va parvenir à ces personnes.
Non pas. C'est vraiment une question de d'acte d'achat. Dire le statut que j'ai moi comme acquéreur de l'œuvre en fonction de la façon dont je l'achète et le prix que j'y mets. De la même façon qu'un livre, c'est un acte d'écrivain, mais c'est aussi un acte de lecteur, un livre. Et souvent, on l'oublie trop souvent. On l'oublie pour l'acquisition d'une œuvre, c'est pareil. Donc il y a différentes façons d'aborder cette œuvre. Mais l'œuvre est la même. Le temps qu'on peut mettre pour y accéder est le même. Il ne s'agit pas de hiérarchie dans la primeur ou d'importance de l'œuvre. C'est la même œuvre. Mais je ne suis pas dans le même statut relationnel avec cet objet en fonction du prix et de la façon dont je peux l'acquérir.
C'est vraiment très intéressant de voir quel problème on a si on reste dans le domaine des droits d'auteur. Qu'est-ce que vous disiez, Christine? Je pense que c'est une chose de payer pour un travail. Ce n'est pas le droit d'auteur. Il faut payer pour le travail. Et je pense que c'est intéressant ici que beaucoup de gens sentent que le système de droit d'auteur ne marche plus. Mais on reste dans le système et évidemment on a des problèmes. Le problème reste parce que le système, c'est un système intégral. Si on dit, oh, on va le diminuer un petit peu, on va le changer un petit peu, ça ne marche pas spécialement pas à ce moment dans l'histoire dans lequel le grand intérêt sont là. Si on abolit le droit d'auteur, le système de droit d'auteur, on peut commencer de réfléchir de nouveau à quelle manière on va payer l'artiste pour l'œuvre, pour le travail, quels sont les intérêts les intérêts publics, les biens publics, etc. C'est une autre approche. Mais je pense, si vous restez dans la cohérence du système de droit d'auteur, et spécialement de copyright, mais à ce moment, tous les deux sont à peu près les mêmes. Et ça va être une soirée très drôle, hein, mais on ne peut pas résoudre vraiment la question à quelle manière on va rémunérer les artistes, on va justifier que les artistes ont utilisé toujours les œuvres des autres, etc. Il faut plutôt à penser dans la direction de vendre, d'acheter, rémunérer avec les systèmes que j'ai proposés par taxer les entreprises qui ont utilisé des œuvres d'art, et mettre de l'argent dans un fonds, payer pour le futur, pour des œuvres dans le futur, ou payer pour les œuvres qu'on a faites. Et c'est immédiatement après, dans le domaine public, dans le, hein, on peut dire, je pense en ce cas, dans le domaine public, et on peut essayer de trouver la manière qu'un certain artiste qui a fait plus, hein, qui est plus populaire, qu'on paye plus. Et, mais dans tout cas, si le système de droit d'auteur n'existe plus, il y a un marché pour que beaucoup des artistes, que ça n'existe pas maintenant parce qu'il y a maintenant une monopolisation du marché. Et si on n'a plus le système de droit d'auteur, on peut abolir cette monopolisation qui existe maintenant. Parce que la logique du système de droit d'auteur, c'est une logique de propriété. Une propriété sur l'esthétique, sur des formes de s'expression. Et cette monopolisation dans le système néolibéral que nous faisons maintenant, c'est vraiment une monopolisation qui est contre toutes les expressions esthétiques, contre la diversité, contre l'intérêt public.
Il y a une petite chose que je voudrais rajouter, qu'on a dite un peu hier, mais je crois que c'est bon toujours de la redire. Je pense à cette fameuse question du droit de prêt dont on a parlé hier, c'est à peu près pour aller dans votre sens. Il y a un truc qui me semble assez frappant, mais je n'arrive pas encore à l'éclaircir tout à fait bien, mais je pense que ça ne va pas tarder. Je pense à la question du droit de prêt. Ce qui est drôlement intéressant dans cette question du droit de prêt, c'est qu'à l'origine, ce n'est pas des auteurs qui demandent à avoir plus de protection ou plus de droits ou plus d'argent, c'est des éditeurs. Ça, c'est une chose. D'autre part, quand l'ABF, l'Association des bibliothécaires de France, fait une sorte de simulation pour savoir qui va bénéficier de ce droit de prêt, encore une fois, on se rend compte que c'est les auteurs les plus connus, c'est-à-dire ceux qu'on a le moins besoin. Et ça, c'est la proposition que vous avez faite aussi, qui est à peu près la même que Stallman, en réalité, pour une redistribution, une démocratisation de la distribution des droits. Bon, mais c'est vrai qu'on n'a pas besoin du droit d'auteur comme ça. Or, ce qui me semble très frappant, c'est qu'il semble quand même, et ça, il faut que je le précise pour être vraiment très clair là-dessus, c'est que les gens qui poussent à la protection des droits de l'auteur ne sont pas nécessairement les auteurs. Et sont plutôt, comme dans le cas du droit de prêt, il y a quand même quelque chose qu'on oublie souvent d'évoquer, c'est précisément cette question de la démocratisation. Parce qu'effectivement, quand la distribution, que ce soit en musique ou en littérature, enfin dans ce cadre du droit de prêt, est faite, c'est toujours ceux qui sont le plus connus, qui ont le plus d'argent, qui sont le plus connus et qui ont le plus d'argent. Je veux dire, on n'en sort pas. Or, il se trouve qu'à la base du copyright, et c'est ce que faisait remarquer Richard Stallman, à la base du copyright, il y a une volonté, l'intérêt public tel qu'il était défini à l'origine, et je ne dis plus maintenant, était pour, comment dire, à la fois une démocratisation et puis surtout une ouverture, enfin, c'est-à-dire qu'il fallait essayer de rémunérer le maximum d'auteurs, qui est un maximum de nouveautés, qui est un maximum de gens qui aient voix aux choses. Or, il se passe exactement le contraire. Et à chaque fois qu'on rajoute de la protection droit, du droit d'auteur ou des choses comme ça, il semble, et ça reste à prouver, et ça je me propose de le faire, il semble effectivement que ça aille toujours dans le sens des auteurs les plus connus, qui sont à nouveau les plus connus et qui ont à nouveau le plus d'argent. Donc c'est ça qui ne fonctionne pas. Et moi, je suis effectivement assez remontée contre les sociétés de protection de droits d'auteur, parce que je trouve que, d'abord, j'ai un principe de base qui est que toute institution n'a pour enjeu que sa propre pérennité. Et donc, je ne pense pas que l'enjeu des sociétés de production de droits soit la protection des droits d'auteur, mais la protection de leurs propres droits. Ça, c'est une base qu'on peut me critiquer, je veux bien débattre là-dessus, je vais d'ailleurs m'en faire un plaisir, mais je crois que c'est ça qui est à la base des choses. Et donc, ça, c'est important de le poser régulièrement sur la table.
Concernant le droit de prêt, j'ai une expérience très remarquable. Je viens des Pays-Bas, puis un petit peu plus nord d'ici. Nous avons eu un droit de prêt, c'était un droit culturel pour les bibliothèques. C'était un système qui commençait dans les années 60, qui a donné de l'argent pour le prêt à des écrivains qui ont écrit quelque chose avec une certaine valeur culturelle jusqu'à un certain maximum de l'argent. Et s'ils ont beaucoup de l'argent, ils ont gagné moins de droits de prêt, et c'était spécialement seulement pour des auteurs néerlandais. C'était vraiment un but culturel. Par la communauté européenne, on a, et par la WIPO, etc., on a été obligé de changer le système dans la direction d'un système de droits d'auteur. Et ça donne le problème que j'ai indiqué ici. Mais enfin, c'était un système intéressant. C'était un droit de prêt basé sur une pensée culturelle de supporter des artistes et des écrivains dans le besoin, mais vraiment dans un cadre culturel. Ça, c'est possible. C'est un autre type de droit de... C'était... Maintenant, c'est dans l'ambiance des droits d'auteur et ça ne marche pas très bien, je pense.
Pour aller un peu plus loin que Joost, c'est vrai qu'au départ, il y a une bonne volonté du législateur de collectiviser, c'est un horrible mot aujourd'hui, cette espèce de rémunération, donc de l'affecter à une fin d'intérêt collectif, en tout cas pour les professionnels, pour la profession. Il a cité le droit de prêt en Hollande. Il se fait qu'au niveau international, il y a une négociation entre les producteurs de disques dans les années 50 et les syndicats d'artistes. Et pour justement... savoir ce qu'on allait faire de cette redevance pour la radiodiffusion de disques dans le commerce. Et qu'est-ce qu'il en a découlé? C'est que les sommes se divisaient pas par moitié, mais plutôt 75% pour l'industrie et 25% pour les syndicats. Qu'à l'époque, donc, les syndicats étaient ces espèces de sociétés de gestion percevant la redevance qui est devenue une redevance individuelle. Ces syndicats ont perçu cette redevance pendant des années. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont affecté, ils devaient l'affecter à des fins collectives. Qu'est-ce qu'ils en ont fait? On n'en sait trop rien. Il se fait qu'à partir d'un moment donné, on s'est dit, mais enfin, mais qu'est-ce qu'ils font de cette redevance? Donc on a dit, il faut un fonds, il faut une structure, il faut une association qui va redistribuer cette redevance à des fins collectives. Qu'on en a fait, on ne sait rien. Il y a un procès en cours ici en Belgique pour savoir ce qu'on a fait de cette redevance.
Ben, c'est la même chose en France avec la DAMI dont on ne sait absolument pas.
C'est un système
et ça
ne
va
retrouve...
pas tarder d'être le problème de la SACEM aussi, dont on ne sait absolument pas ce qu'est fait des fonds.
Absolument.
Par contre, on sait très bien combien les directeurs sont payés. Oui. C'est très intéressant de savoir combien ils
sont payés. En ce qui concerne les redevances à des fins collectives, vous avez une partie de la redevance en France, 30% de la redevance copie privé, qui doit être affecté à des fins collectives au bénéfice de la profession, je me demande vraiment où cet argent s'envole aussi.
Moi, je crois qu'il va précisément au bénéfice de l'institution, dont la vocation est d'assurer, comme je disais, sa propre pérennité.
Donc, est-ce que ces redevances, finalement, sont tellement bénéfiques pour le soutien de la création, pour le soutien de l'activité artistique? Je ne sais pas. À part le système de redevances qui profite toujours aux gens qui ont de plus en plus de notoriété, c'est-à-dire aux stars,
absolument,
c'est un système qui n'est pas en faveur d'une égalité. Enfin,
absolument.
On ne peut même pas parler d'égalité.
C'est absolument antidémocratique à mes yeux, en tout cas.
C'est un système aussi qui pousse l'industrie à produire des produits qui fonctionnent très très fort pendant peu de temps pour empocher un maximum d'argent. Et donc, ça tend à diminuer l'offre de produits culturels. C'est un système qui se mord la queue.
Absolument. Mais c'est exactement ce que décrit. Moi, je vous encourage vraiment à lire ce bouquin qui a été pour moi crucial. Le bouquin de Bernard Edelman qui s'appelle « La propriété littéraire et artistique » dans les éditions Que sais-je. C'est vraiment la tarte à la crème. Mais c'est vraiment extrêmement bien expliqué.